Chers amis, notre société est marquée par le désespoir. Notre société n'enfante plus. Le taux de fécondité et de renouvellement des générations s'écroule. Les jeunes ont peur de l'avenir, ils ont peur de ne pas avoir de travail, ils ont peur du réchauffement climatique, ils ont peur de la guerre. Certains sont même terrifiés simplement à l'idée de sortir de chez eux depuis qu'ils ont vécu le traumatisme du confinement. De fait, tout est fait pour créer un climat anxiogène. Et comme en plus la plupart de nos contemporains ne croient plus en Dieu, en tous les cas en un Dieu personnel qui les aime, qui les sauve, il n'est pas étonnant que l'espérance soit comme morte. Car là où Dieu n'est pas, la grande espérance disparaît. Il ne reste plus que des petites espérances qui ne suffisent pas à combler le cœur de l'homme et qui s'effritent vite devant les épreuves. D'où l'importance pour nous chrétiens de cultiver en nous cette belle vertu théologale de l'espérance que nous avons reçue en cadeau au baptême. Mes amis, le monde attend notre espérance. Notre monde blessé a besoin d'espérance. Offrons-lui le baume de l'espérance pour sa guérison. Si Dieu nous a fait ce cadeau, ce n'est pas pour que nous le gardions emballé dans son papier cadeau et dormant dans un placard. C'est pour que nous en soyons des témoins. L'espérance, la grande espérance, l'espérance en Dieu seul, donne la joie. Et la joie est un remède à la tristesse du monde. Je vous avais déjà raconté cet épisode qui m'avait beaucoup marqué, mais je vous le rappelle. J'étais dans la chapelle des apparitions à Paray-le-Monial pour le passage du deuxième au troisième millénaire. Et une femme, visiblement abîmée par une vie difficile, par l'alcool, est venue vers moi puisque j'étais là, et elle m'a dit: j'ai vu la joie dans les yeux des chrétiens et je veux connaître cette joie. Cela m'avait puissamment interpellée. La joie, celle qui vient de Dieu, a donc une puissance d'évangélisation qu'on ne soupçonne pas. Eh bien, je pense qu'il en est de même de l'espérance, car elle est le reflet en nous de la certitude de l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'espérance est l'expression de ce message de la foi chrétienne, à savoir que l'amour de Dieu est plus fort que la mort, est plus fort que tout ce qui peut être facteur de désespoir. Mais cela, seul celui qui a rencontré Dieu l'expérimente. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, leur faisait justement remarquer qu'avant leur conversion, ils étaient sans espérance ni Dieu en ce monde, et donc sans avenir non plus. Or, ce qui caractérise les chrétiens, c'est précisément qu'ils ont un avenir, nous dit le pape Benoît XVI, dans son encyclique « Spe Salvi », « Sauvé dans l'espérance », encyclique très belle dont je m'inspirerai beaucoup dans cette émission. Le fait de dire que les chrétiens ont un avenir, cela ne veut pas dire qu'ils sachent dans les détails ce qui les attend. Mais ils savent de manière générale que leur vie ne finit pas dans le néant. Et donc, parce que l'avenir est assuré en tant que réalité positive, alors le présent devient aussi vivable. Autrement dit, le message de l'Évangile, de Jésus venu nous arracher au péché et à la mort, n'est pas seulement une information pour notre intelligence, mais c'est un message performatif, c'est-à-dire qui fait ce qu'il dit, qui opère une transformation profonde de notre être, qui change la vie. Celui qui a l'espérance vit différemment. Une vie nouvelle lui a déjà été donnée. Ainsi donc, selon saint Paul, parvenir à la connaissance de Dieu, du vrai Dieu, cela signifie recevoir l'espérance. Et l'exemple que nous donne le pape Benoît XVI pour éclairer cela, c'est la figure de sainte Joséphine Bakita. Peut-être que vous connaissez son histoire, il y a eu un très beau film qui était sorti sur elle il y a quelques années. Joséphine est née vers 1869 dans le Darfour, au Soudan. À l'âge de 9 ans, elle est enlevée par des trafiquants d'esclaves et vendue 5 fois sur des marchés soudanais. En dernier lieu, comme esclave, elle se retrouve au service de la mère et de la femme d'un général. Là, elle a été chaque jour battue jusqu'au sang. Elle en a gardé pour toute sa vie 144 cicatrices. Enfin, en 1882, elle est vendue à un marchand italien pour le consul italien Callisto Legnani. Ce dernier maître est bon pour elle. Elle n'a plus à redouter le fouet, les châtiments corporels. Elle goûte enfin la paix, l'affection et des moments de joie. En 1885, le consul doit rentrer en Italie. Bakita est admise à le suivre. Mais en arrivant, un ami lui demande Bakita comme servante car sa femme est enceinte et elle a besoin d'une aide. Bakita entre alors dans une nouvelle famille, les Micheli. Elle est préposée à l'éducation de la petite fille et plus tard, toutes deux sont confiées pour les études aux filles de la charité, les sœurs canossiennes. Là, elle apprend à connaître Jésus-Christ, le vrai Dieu, qu'elle pressentait en son cœur depuis qu'elle était toute petite. Et Benoît XVI fait ce commentaire à propos du cheminement spirituel de Bakita. Après avoir été la propriété de maîtres terribles, Bakita connut un maître totalement différent. Dans le dialecte vénitien qu'elle avait alors appris, elle appelait Paron, le Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ. Jusqu'alors, elle n'avait connu que des maîtres qui la méprisaient, qui la maltraitaient, ou qui, dans le meilleur des cas, la considéraient comme une esclave utile. Cependant, à présent, elle entendait dire qu'il existait un Paron, au-dessus de tous les maîtres, le Seigneur des Seigneurs, et que ce Seigneur était bon, la bonté en personne. Elle apprit que ce Seigneur la connaissait, elle aussi, qu'il l'avait créée, elle aussi, plus encore, qu'il l'aimait. Elle aussi était aimée, et précisément par le Paron suprême, face auquel tous les autres maîtres ne sont eux-mêmes que de misérables serviteurs. Elle était connue et aimée, et elle était attendue. Plus encore, ce maître avait lui-même personnellement dû affronter le destin d'être battu, et maintenant il l'attendait à la droite de Dieu le Père. Désormais, elle avait une espérance. Non seulement la petite espérance de trouver des maîtres moins cruels, mais la grande espérance. Je suis définitivement aimée. Et quoi qu'il m'arrive, je suis attendue par cet amour. Et ainsi, ma vie est bonne. Par la connaissance de cette espérance, elle était rachetée. Elle ne se sentait plus une esclave, mais une fille de Dieu, libre. Elle comprenait ce que Paul entendait lorsqu'il rappelait aux Éphésiens qu'avant, ils étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance, parce que sans Dieu. Aussi, lorsqu'on voulut la renvoyer au Soudan, Bakita refusa-t-elle. Elle n'était pas disposée à être de nouveau séparée de son Paron. Le 9 janvier 1890, elle fut baptisée, puis confirmée, et le 8 décembre 1896, elle prononça ses vœux dans la congrégation des sœurs canossiennes. Et dès lors, elle n'avait point d'autre désir que de partager cette espérance qui était née pour elle et qui l'avait rachetée et libérée. Voyez, l'espérance chrétienne n'est pas seulement le vague désir d'un bien meilleur. L'espérance chrétienne naît de la certitude de la foi. Elle se fonde sur quelque chose qui est déjà donné. Dans le Christ, Dieu s'est manifesté. Il nous a réellement communiqué la substance des biens à venir. Et donc, l'attente de Dieu obtient une nouvelle certitude. Elle est attente des biens à venir à partir d'un présent déjà donné. Elle est attente que se complète son corps dans la perspective de sa venue définitive et glorieuse. Benoît XVI insiste beaucoup là-dessus, car il y a eu des interprétations inadéquates, notamment de la part de Luther. Quand l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 11 dit « La foi est la substance des biens que l'on espère ». La preuve des réalités qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'il affirme? Saint Thomas d'Aquin l'explique ainsi. La foi est un habitus, c'est-à-dire une disposition constante de l'esprit grâce à laquelle la vie éternelle prend naissance en nous et grâce à laquelle la raison est portée à consentir à ce qu'elle ne voit pas. Autrement dit, par la foi, en germe, en substance, sont déjà en nous les biens que l'on espère, c'est-à-dire la vraie vie. Et c'est précisément parce que les biens eux-mêmes sont déjà présents que la présence de ce qui se réalisera crée également la certitude. Ces biens qui doivent venir ne sont pas encore visibles dans le monde extérieur, ils n'apparaissent pas. Mais en raison du fait que comme réalité initiale et dynamique, nous les portons en nous, ils nous ont été donnés, alors naît déjà maintenant une certaine perception de ces biens. Or, ce n'est pas ainsi que Luther, et même à sa suite certains exégètes catholiques, voyait les choses. Lui, il comprenait cette parole de la lettre aux Hébreux dans un sens subjectif et non objectif. Là où l'Écriture sainte et la tradition entendaient la substance des biens à espérer, Luther y voyait la ferme conviction, et donc il traduisait ainsi. La foi consiste à être ferme en ce que l'on espère, à être convaincu de ce que l'on ne voit pas. Or, cela ne correspond pas au sens du texte, qui ne parle pas de conviction, ce qui est subjectif, mais de preuve, ce qui s'appuie sur une objectivité donnée. Voyez, on a l'air d'ergoter sur des mots, mais l'enjeu est profond. La foi n'est pas seulement une tension personnelle vers les biens qui doivent venir, mais qui sont encore absents. La foi nous donne quelque chose de la réalité attendue. Et la réalité présente constitue bien pour nous une preuve des biens que nous ne voyons pas encore. Autrement dit, la foi attire l'avenir dans le présent. Elle le rend présent. Et cela est premier par rapport au « pas encore » qui doit encore venir. Et donc, le fait que cet avenir existe réellement, eh bien, cela change le présent. Le présent est touché, impacté par la réalité future. Et ainsi, les biens à venir se déversent sur les biens présents et les biens présents sur les biens à venir. La foi confère donc une base nouvelle à l'existence, un nouveau fondement substantiel sur lequel l'homme peut s'appuyer. Et cela relativise tous les autres fondements de nos vies, notamment les fondements matériels. On voit l'expérience de cela dans les premiers chrétiens ou les martyrs qui ont accepté de tout perdre pour le Christ. Ils se sont laissés spolier de leurs biens. Pourquoi ? Parce qu'ils se savaient déjà en possession de biens meilleurs. Ils pouvaient donc abandonner les biens passagers de ce monde parce qu'ils avaient trouvé une base meilleure pour leur existence. Une base substantielle qui demeure et que personne ne peut leur enlever. Le chrétien acquiert donc une nouvelle liberté du fait de ce qu'il a déjà reçu, du fait de la conscience de la nouvelle substance qui lui a été donnée. Ainsi, la promesse du Christ n'est pas seulement une réalité attendue, mais une véritable présence, nous dit Benoît XVI, présence sur laquelle le chrétien peut s'appuyer dès à présent. La foi chrétienne a donc bien vocation à être pour nous aujourd'hui une espérance qui transforme et soutient notre vie. Elle a vocation à être non pas seulement une information, mais un message performatif qui accomplit ce qu'il annonce, qui forme en nous de manière nouvelle la vie elle-même. Et d'ailleurs, n'est-ce pas ce que l'on demande au baptême ? Dans le rituel du baptême, quand il est respecté, le prêtre accueille le nouveau-né dans la communauté des croyants. Il demande le prénom donné à l'enfant. Puis il poursuit par cette question. « Que demandez-vous à l'Église ?» Et la réponse, ce n'est pas d'abord de faire partie de la communauté des croyants, comme on l'entend parfois. La réponse, c'est la foi. Question suivante. « Et que donne la foi ?» Réponse, la vie éternelle. Les parents n'attendent pas du baptême un simple accueil dans l'Église. Ils attendent, ou ils devraient attendre en tous les cas, bien plus pour le baptiser. Ils attendent que la foi lui donne la vie, la vraie vie, la vie éternelle. La foi est donc bien la substance de l'espérance. Mais la question est de savoir si aujourd'hui les gens ont encore le désir de la vie éternelle. C'est quand même une vraie question, parce qu'il semblerait que la vie éternelle ne soit plus quelque chose de désirable. Les gens préfèrent aujourd'hui la vie présente, et peut-être parce qu'ils ont une image de la vie éternelle comme quelque chose de particulièrement ennuyeux. Continuer à vivre sans fin leur apparaît plus comme une condamnation que comme un don, car ils ont perdu la perspective de l'amour de Dieu. Et de fait, cela peut sembler très abstrait tant qu'on n'a pas fait une vraie rencontre avec le Seigneur. En fait, ce que nous désirons, ce n'est pas la vie, une vie qui ne finit pas, mais c'est la vie en plénitude, une vie qui ne serait plus marquée par la mort, la vie bienheureuse donc. Nous voulons le bonheur, nous aspirons à cette réalité sans la connaître et pourtant nous pressentons qu'elle existe. Nous en avons reçu l'assurance par la foi. Et par la foi, nous comprenons que cette vie bienheureuse n'a rien à voir avec la succession des jours du calendrier, mais qu'elle est une immersion dans l'océan de l'amour trinitaire. C'est la vie au sens plénier, une immersion toujours renouvelée dans l'immensité de l'être, immersion qui comble l'âme de joie. C'est ainsi qu'il nous faut comprendre l'espérance chrétienne, la joie surabondante promise par Jésus. Et cette espérance n'est pas seulement celle d'un bonheur individuel, mon petit salut à moi. Non, elle est communautaire dans la mesure où nous sommes attendus dans la Jérusalem céleste, dans la cité du Dieu vivant, là où tous sont frères dans le Christ. Mais force nous est de constater que cette foi espérance chrétienne a été comme transformée dans les temps modernes. Elle a été comme détournée et falsifiée. Elle a été laïcisée, mais ce faisant, elle s'est vidée de sa substance et a enfanté des monstres et finalement le désespoir. Comment cela a-t-il commencé ? Nous trouvons le soubassement de la pensée des temps modernes particulièrement chez Francis Bacon, scientifique et philosophe du début du XVIIe siècle. Devant les avancées techniques, il propose une théorie empiriste de la connaissance et précise les règles de la méthode expérimentale. Il fait une corrélation entre la science et la pratique. Seulement cela s'est ensuite appliqué à la théologie. Cette nouvelle corrélation entre science et pratique signifierait, pour Francis Bacon, que la domination sur la création donnée à l'homme par Dieu et perdue par le péché originel serait rétablie. Il faut bien voir que jusqu'à cette époque, la récupération de ce que l'homme, après avoir été exclu du paradis terrestre, avait perdu, était à attendre de la foi en Jésus-Christ, ce qu'on appelle la rédemption. Or, désormais, selon Bacon, cette rédemption, la restauration du paradis perdu, ne serait plus à attendre de la foi, mais de la relation à peine découverte entre science et pratique. La foi en Jésus-Christ serait tout simplement reléguée dans la sphère privée et au-delà de ce qui est terrestre, ce qui ne pouvait qu'entraîner une crise de l'espérance puisque tout était ramené à cette vie. Cela ne voulait pas dire que l'espérance disparaissait, mais elle prenait une forme nouvelle. Désormais, elle devenait la foi dans le progrès. Selon Francis Bacon, de la synergie des sciences et des pratiques s'ensuivront forcément des découvertes totalement nouvelles et émergera de ce fait un monde totalement nouveau, le règne de l'homme, comme il le dit lui-même. Et nous sommes toujours, aujourd'hui encore et peut-être plus que jamais, dans cette dynamique-là. Le transhumanisme, l'intelligence artificielle et toutes ces nouvelles technologies s'inscrivent dans ce mouvement où l'on pense que le progrès est infini et qu'il apportera le bien sur la terre, une rédemption, l'immortalité, non plus dans un au-delà, mais ici-bas, une immortalité née de la fusion du biologique et de la technologie. Fantasme d'un monde où la douleur n'existera plus, ni la mort, ni les limites de la finitude humaine, où tout pourra être sous contrôle. Mais revenons à la naissance des temps modernes. À la racine de ces temps et en lien avec cette foi dans le progrès, nous avons une domination croissante de la raison et une exaltation de la liberté. En effet, le progrès est vu comme le dépassement par la raison, par la science, de toutes les dépendances. Ce qui est visé, c'est le progrès vers la liberté parfaite. Seulement, cette vision est assez naïve. Elle part du principe que la raison et la liberté peuvent garantir par elles-mêmes, en vertu de leur bonté intrinsèque, une nouvelle communauté humaine parfaite. Ce sont là les implications politiques de cette idée du progrès. Nous en avons vu la manifestation lors de la Révolution française, où il y a eu la tentative d'instaurer la domination de la raison et de la liberté, d'instaurer un nouveau règne de Dieu, mais sans Dieu, seulement avec la déesse de la raison et une raison détachée du bien, de la vérité. Le problème, c'est qu'en renversant ce qui est de l'ordre de la nature, on se retrouve avec ce qui est contre nature. Et le philosophe Kant, en 1795, faisait cette remarque judicieuse. Si le christianisme devait cesser d'être aimable, on verrait nécessairement l'aversion et la révolte soulever contre lui le cœur de la majorité des hommes. Et l'antéchrist, qu'on considère de toute façon comme le précurseur du dernier jour, établirait son règne, fondée sans doute sur la peur et l'égoïsme, fût-ce pour peu de temps. Et comme le christianisme, destiné à être la religion universelle, serait alors frustré de la faveur du destin, on assisterait à la fin, renversée, de toute chose au point de vue moral. On assisterait donc à une issue perverse. Priver les gens de la grande espérance en Dieu, c'est en fait les condamner au règne des idoles et de la perversité. Le XIXe siècle ne renia pas cette foi dans le progrès comme forme de la nouvelle espérance humaine. Et il continua à considérer la raison et la liberté comme des étoiles guides à suivre sur le chemin de l'espérance. Seulement le développement technique et l'industrialisation ont vite créé une situation sociale totalement nouvelle, avec l'émergence d'un prolétariat industriel aux terribles conditions de vie. Arrive alors Marx qui s'empare de cette nouvelle réalité pour décréter que le progrès vers le mieux, vers le monde définitivement bon, ne provient pas simplement de la science, mais de la politique, et donc il faut faire une nouvelle révolution, une révolution prolétarienne. Ce programme a donné toute sa mesure en Russie, mais il a aussi mis en évidence l'erreur fondamentale de Marx. En effet, celui-ci pensait qu'il suffisait d'exproprier la classe dominante, faire chuter le pouvoir politique, socialiser les moyens de production, pour que se réalise la nouvelle Jérusalem. Mais il a oublié que l'homme demeure toujours un homme, marqué par le péché originel, et dont la liberté peut choisir le mal. Il croyait qu'une fois mise en place l'économie nouvelle, tout serait mis en place. Sa véritable erreur, en fait, c'est le matérialisme qui est au fondement de sa pensée. En effet, l'homme n'est pas seulement le produit de conditions économiques, et il n'est pas possible de le guérir seulement de l'extérieur en créant des conditions économiques favorables. En se débarrassant de Dieu, Marx a mutilé l'homme dans sa dimension transcendante. Il a réduit l'homme à la matière. Voyez, le défaut de théologie entraîne un défaut d'anthropologie et une catastrophe humanitaire. Là où la liberté devait régner, ce sont les goulags qui se sont mis en place. Là où devait advenir l'espérance d'un monde meilleur et pacifié, ce fut l'esclavage, la torture et la mort. Vouloir réaliser un règne de Dieu sans Dieu, donc un règne de l'homme seul, ne peut aboutir qu'à une issue perverse, comme le pointait du doigt Kant. La raison a besoin de la foi pour ne pas s'égarer. La liberté a besoin de la grâce de Dieu pour ne pas s'aliéner aux idoles mortifères. Et le progrès ne peut être un progrès bon qui va dans le sens de l'homme s'il ne s'accompagne pas d'une croissance morale de l'humanité, d'un discernement du bien et du mal dont Dieu est la source et le garant. La foi dans le progrès se change vite en menace pour l'homme et pour le monde. C'est tellement important pour nous de ne pas nous laisser avoir par des pseudo-espérances qui ne pourront jamais tenir leurs promesses, car elles ne sont pas arrimées à la grande espérance en Dieu, fondée sur la foi, et donc ultimement fondée sur la révélation que Dieu nous a faite de lui-même et de ce qui est bon pour l'homme. Ne nous laissons pas séduire, soyons vigilants. Écoutons la mise en garde de saint Jean dans sa première lettre. « Bien-aimés, dit-il, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus nous dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Avant-hier, ce fut Francis Bacon, hier, ce fut Marx. Depuis, il y a eu d'autres hommes politiques qui ont galvanisé les foules et fait naître le grand espoir d'un monde meilleur. Mao, Hitler, Pol Pot. Aujourd'hui, certains, pris d'une Trump-mania, veulent voir en Donald Trump le sauveur de la civilisation. D'autres le voient comme le nouveau Cyrus dans son rôle en faveur d'Israël. La tentation revient toujours de mettre dans des hommes notre foi et notre espérance. Or, le salut ne viendra ni de la science, ni de la technologie, ni de l'intelligence artificielle, ni de la politique. Même si la science, la technologie et la politique peuvent être de bonnes choses pour servir l'humanité, à condition qu'elles ne deviennent pas l'explication ultime du monde, à condition qu'elles se laissent éclairer par la loi éternelle. Le salut véritable ne viendra pas de l'extérieur, mais de notre conversion à Dieu et de notre espérance en lui seul. Ce qui sauve l'homme, ce n'est ni la science ni la politique, c'est l'amour. Et cet amour, pour être le fondement de notre espérance, il a besoin d'être inconditionnel. L'homme a besoin de cette certitude qui lui fait dire à la suite de saint Paul, « Ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. » C'est cette certitude qui est au fondement de notre espérance. Jésus-Christ m'a aimé et il s'est livré pour moi. Alors je puis tout espérer. Je puis espérer la vie éternelle, c'est-à-dire la vie en plénitude pour laquelle Jésus a donné sa vie. C'est seulement cette espérance-là, la grande espérance, l'espérance en Dieu qui soutient l'existence, qui résiste malgré toutes les désillusions, qui nous permet de traverser les ravins de la mort et d'attendre dans la confiance la grande rencontre avec celui qui nous a aimés et qui nous aime toujours jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout soit accompli. L'amour de Dieu pour nous est bien la garantie qu'existe ce que nous pressentons vaguement et que cependant nous attendons au plus profond de nous-mêmes, la vie qui est vraiment vie.
Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine, sur la route j'ai confiance en toi. Écoute, langues et peuples, dans vos cœurs rayonne la parole. Les nations dispersées sur la terre se rassemblent dans le Fils bien-aimé.
Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie.
Chers amis, vous savez certainement que nous sommes désormais, depuis Noël, dans une année jubilaire. Tous les 25 ans, l'Église nous donne cette grâce de vivre un jubilé ordinaire, c'est-à-dire un temps de grâce, de conversion, d'accueil de la miséricorde, d'une manière plus particulière. Dans cette optique, le pape François a donné au peuple de Dieu une lettre, la bulle d'indiction du jubilé, dans laquelle il nous donne l'orientation spirituelle qu'il désire voir vivre dans l'Église durant toute cette année 2025. Le titre de cette bulle d'indiction est la parole de saint Paul dans sa lettre aux Romains. L'espérance ne déçoit pas. Le pape François nous invite donc tous à devenir des pèlerins de l'espérance. Il désire que nous nous tournions à nouveau avec plus d'ardeur vers celui-là seul qui est notre espérance, c'est-à-dire le Christ. Je vais donc vous redonner quelques grandes idées de cette lettre. Tout d'abord, le Saint-Père fait remarquer que tout le monde espère. Il y a en chaque personne, en effet, un désir, une attente du bien, même si nous ne savons pas trop de quoi demain sera fait. L'avenir suscite des sentiments qui sont souvent contradictoires. La confiance, mais aussi la peur. La sérénité, mais aussi le découragement. Eh bien, que ce jubilé ramène, si je puis dire, notre boussole vers l'espérance et la confiance. Et ceci pour une bonne raison. C'est que l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, comme nous le dit saint Paul dans sa lettre aux Romains. Ce qui fonde notre espérance, c'est donc la certitude de l'amour de Dieu pour nous. Cet amour dont le Seigneur nous a prouvé le sérieux et l'intensité du fait qu'il a accepté de mourir sur la croix pour nous. Ce qui fait dire au pape François, l'espérance naît de l'amour et se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur de Jésus, transpercé sur la croix. Et si nous demeurons dociles à la grâce que nous avons reçue du Saint-Esprit au baptême, alors nous serons irradiés par la lumière de l'espérance. Car c'est bien lui, l'Esprit-Saint, qui maintient allumé dans l'Église l'espérance comme une torche qui ne s'éteint jamais. C'est l'Esprit-Saint qui nous rappelle sans cesse que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni l'angoisse, ni les persécutions, ni le dénuement, ni présent, ni avenir, ni aucune créature. Et donc par l'Esprit-Saint, l'espérance ne cède pas devant les difficultés. Saint Augustin faisait cette remarque. Quel que soit le genre de vie, on ne peut pas vivre sans ces trois inclinations de l'âme, croire, espérer, aimer. Et ceci même si notre vie est mise à l'épreuve par toutes sortes de difficultés. Et saint Paul nous montre, y compris par son exemple, que l'espérance ne doit pas disparaître devant la souffrance. Notre cher saint Paul a en effet connu bien des tribulations dans l'annonce de l'Évangile. Des persécutions, la bastonnade, le fouet, les procès, les faux frères, la contradiction des païens. Et pourtant son espérance est demeurée intacte. Car elle ne reposait pas sur les événements bons ou mauvais de sa vie, mais sur le Christ seul et ses promesses. Ainsi saint Paul a-t-il pu dire « Nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée produit l'espérance. » Vous voyez, ce n'est pas contradictoire. On peut être éprouvé et dans l'espérance. Et même l'épreuve produit l'espérance. Elle renforce la vertu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, n'est-ce pas? Le pape François nous dit finalement que l'évangélisation est toujours soutenue par la force qui découle de la croix et de la résurrection du Christ. Et cela conduit à développer une vertu étroitement liée à l'espérance, à savoir la vertu de patience. Comme nous en avons besoin de celle-ci aussi, n'est-ce pas? Surtout dans le contexte de notre monde où tout est fait pour nous amener à la précipitation, au zapping permanent et à la frustration si nous n'obtenons pas tout, tout de suite. Internet ne nous apprend pas la vertu de patience. Or Dieu est patient avec nous et il veut nous apprendre aussi à être patient. Si nous savions encore nous émerveiller devant la beauté de la création, nous apprendrions la patience. Comme on le dit, on ne fait pas pousser les plantes en tirant sur les feuilles. La croissance se nourrit de patience et d'espérance. Il faut du temps entre la graine de chêne plantée en terre et le bel arbre à sa maturité. Remettons-nous donc à l'école de la nature et du Créateur pour retrouver la patience qui va avec la persévérance et qui produit l'espérance. Une espérance éprouvée par le temps, par l'attente. Le Saint-Père nous dit « La patience qui est le fruit de l'Esprit-Saint maintient vivante l'espérance et la consolide en tant que vertu et style de vie. » Et en conséquence, il nous exhorte à prier pour demander souvent la grâce de la patience, qui est fille de l'espérance et qui en même temps la soutient. Si l'espérance s'inscrit dans le temps, elle devient donc un chemin vers un but. Nous sommes en marche vers ce que nous espérons, ce que nous désirons, la rencontre avec Jésus-Christ. Et de fait, l'espérance nous rappelle que la vie chrétienne est un chemin, et un chemin qui a besoin de temps fort pour nourrir et fortifier l'espérance. Ces temps forts, le peuple chrétien a eu l'habitude de les vivre sous la forme du pèlerinage, et ceci depuis les temps antiques. Faire le chemin de Compostelle, par exemple, au Moyen-Âge, ou bien le pèlerinage à Notre-Dame de Rocamadour, fut un temps où on accourait de toute l'Europe pour aller en pèlerinage vers la Vierge Noire de Rocamadour, ou au Mont-Saint-Michel, ou à Jérusalem, ou à Rome. Or, de fait, le pèlerinage est un élément fondamental de tout événement jubilaire. pèlerinage à pied pour redécouvrir la valeur du silence, de l'effort, de l'essentiel finalement. Ou bien pèlerinage avec les facilités d'aujourd'hui. Mais même si on prend la voiture, il est bon aussi, pour autant que nous le puissions, de marcher. Et c'est pourquoi le pape François désire que nous redevenions des pèlerins de l'espérance. Et pour cela, dans la ville de Rome, il y aura les itinéraires traditionnels des catacombes et des sept églises jubilaires, mais aussi des itinéraires de foi seront aménagés. Et pour que ce pèlerinage devienne vraiment chemin de conversion, car c'est bien l'enjeu, on pourra trouver dans ces églises jubilaires comme des oasis de spiritualité où l'on pourra se rafraîchir sur le chemin de la foi et s'abreuver aux sources de l'espérance, nous dit le pape, notamment en goûtant la miséricorde de Dieu lors du sacrement de réconciliation qui sera largement proposé. Nous ne pouvons pas entrer dans une profonde jubilation spirituelle sans une profonde confession de nos péchés. Le repentir de tout ce qui fait obstacle en nous à la grâce fait partie de la démarche jubilaire pour accueillir pleinement l'infini amour miséricordieux de Dieu et ainsi recevoir l'espérance certaine du salut dans le Christ. Le Saint-Père nous invite aussi à vivre ce jubilé comme une étape en vue du grand jubilé extraordinaire qui aura lieu en 2033. Ce sera l'anniversaire des 2000 ans de la rédemption. Nous avons fêté il y a 25 ans le grand jubilé de l'an 2000, c'est-à-dire le jubilé de l'anniversaire de l'incarnation du Verbe, de sa naissance parmi nous comme l'Emmanuel. Et en 2033, ce sera le jubilé de sa mort et de sa résurrection. Mes amis, je ne sais pas si vous réalisez, mais nous sommes dans un temps très particulier, un temps exceptionnel. Nous sommes dans ce temps anniversaire des 33 ans où le Christ a vécu sa mission parmi nous. C'est peut-être pour cela que tout semble chaotique, que tout semble se déchaîner sur la surface de la terre, comme si les démons eux-mêmes pressentaient que le temps de leur défaite était proche, que le prince de ce monde allait être jeté dehors du fait de la puissante grâce à venir du grand jubilé de la rédemption. En tous les cas, ce qui est beau, c'est de savoir que nous sommes sur un parcours semé de jubilés, où la grâce de Dieu nous précède et nous accompagne. Et nous, avec cette grâce, nous pouvons marcher avec zèle dans la foi, œuvrer dans la charité et persévérer dans l'espérance. Mais l'espérance doit s'incarner aussi, et nous sommes invités à nous demander « Comment pouvons-nous être signes d'espérance dans ce monde et pour les autres, concrètement ?» Et le pape François nous invite pour cela à être attentifs aux signes des temps. Vous savez que le Concile Vatican II nous exhortait à scruter les signes des temps pour les interpréter à la lumière de l'Évangile. Il s'agit de voir les nouveaux défis, les souffrances, les nouveaux enjeux de notre monde pour y répondre selon l'Évangile et selon ce que l'Esprit-Saint nous inspire. Or, les signes des temps que nous pouvons percevoir demandent à être transformés en signes d'espérance, précisément. Et le Saint-Père nous en donne plusieurs qui doivent personnellement et communautairement nous interpeller et peut-être susciter des vraies conversions et des vocations parmi nous. Le premier signe d'espérance doit se traduire par la paix pour le monde plongé une fois encore dans la tragédie de la guerre. Une guerre qui semble s'étendre de pays en pays avec une telle sauvagerie et violence qu'elle n'épargne ni les populations civiles ni les enfants. Le pape avait déjà dit il y a plusieurs années que la Troisième Guerre mondiale avait déjà commencé, mais d'une manière fragmentée. Eh bien, un signe d'espérance concret pour notre monde déchiré est précisément l'appel à la paix. Non seulement la prière pour la paix, mais les actes posés en vue de la paix. Nous sommes tous invités à devenir des artisans de paix. Le deuxième signe de l'espérance, c'est de regarder l'avenir avec espérance, et donc d'avoir une vision de la vie pleine d'enthousiasme à transmettre. Le pape déplore le fait qu'il y ait une vraie perte du désir de transmettre la vie aujourd'hui, avec pour conséquence une baisse préoccupante de la natalité. Or, le projet de notre Créateur, c'est bien une paternité et maternité responsable, confiée aux époux et à leur amour. L'avenir de notre société dépend du désir des jeunes d'engendrer de nouveaux enfants comme fruit de la fécondité de leur amour. Un amour qui serait stérile et n'enfanterait pas serait le signe d'une forme de désespérance et donc derrière d'un manque de confiance en Dieu, en sa providence, en son amour. Si nous ne savons plus vivre le don de la vie, le don de soi, alors les berceaux resteront vides. Et quelle tristesse! Au contraire, les époux qui enfantent en se fondant sur le secours du Seigneur sont des signes d'espérance. Ils annoncent de fait la bonne nouvelle de la vie offerte comme un don par la bonté du Père éternel. Le Saint-Père demande aussi que nous soyons des signes d'espérance pour de nombreux frères et sœurs qui vivent dans des conditions de détresse, notamment les détenus. Il invite à faire fleurir des initiatives qui redonnent espoir par des amnisties, des remises de peine et des parcours de réinsertion pour relever l'espérance. Et ceci est bien dans la tradition biblique des jubilés. Dans le Lévitique, nous lisons l'ordre de Dieu. Vous déclarerez sainte cette 50e année et proclamerez l'affranchissement de tous les habitants du pays. Et ceci est repris par Isaïe et par Jésus lui-même. Le Seigneur m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. C'est une invitation aussi pour aujourd'hui, nous dit le pape François, pour réclamer des conditions dignes pour ceux qui sont emprisonnés, le respect des droits humains et l'abolition de la peine de mort. Le pape insiste aussi sur les jeunes. Il ne faut pas les décevoir, car l'avenir se fonde sur leur enthousiasme. Or aujourd'hui, leur espérance est menacée par le chômage, l'absence de perspective et la tentation est souvent là de recourir aux drogues, aux transgressions dangereuses, à la recherche de l'éphémère qui ne peuvent que générer, in fine, la tristesse et des comportements autodestructeurs. Le jubilé doit donc être l'occasion d'un nouvel élan envers les jeunes pour les soutenir. Soutenir les jeunes, les étudiants, les fiancés, c'est prendre soin de l'avenir du monde et de l'espérance de l'Église. Prions et agissons pour eux. Mais les anciens ne sont pas oubliés. Les personnes âgées méritent aussi des signes d'espérance, elles qui souvent font l'expérience de la solitude et de l'abandon. Or, leur expérience de vie est un trésor à valoriser. Les grands-parents sont aussi très précieux dans la transmission de la foi et de la sagesse aux générations plus jeunes. Des signes d'espérance doivent aussi être offerts aux malades, qu'ils soient à la maison ou à l'hôpital. Cela a toujours été une des missions de l'Église de soulager la souffrance, en entourant les personnes d'affection, de proximité. Les œuvres de miséricorde sont aussi, de fait, des œuvres d'espérance qui réveillent dans les cœurs des sentiments de gratitude. Les malades peuvent alors éprouver la consolation de ne pas être abandonnés et de voir ainsi un avenir s'ouvrir. Si les malades doivent retenir l'attention de l'Église, les migrants aussi, eux qui sont contraints à l'exil pour fuir leur pays en raison d'événements internationaux douloureux, à la recherche d'une vie meilleure. Le pape rappelle que la communauté chrétienne doit toujours être prête à défendre le droit des plus faibles, et donc à ouvrir les portes de l'accueil avec générosité, afin que l'espérance d'une vie meilleure ne manque à personne. Les pauvres sont aussi à prendre en considération car la résignation guette nos contemporains, écrasés sous le poids d'un appauvrissement général qui précarise et menace l'espérance. Et le pape montre bien l'aspect scandaleux des dysfonctionnements de nos sociétés. Il est scandaleux, dit-il, que dans un monde doté d'énormes ressources largement consacrées aux armements, les pauvres constituent la majeure partie des milliers de millions de personnes. Et dans cette même optique, le jubilé nous rappelle que les biens de la terre ne sont pas destinés à quelques privilégiés, mais à tous. Et donc la faim dans le monde est aussi de l'ordre du scandale. Le pape en appelle à la conscience de l'humanité pour que cette plaie soit guérie. Une autre invitation est destinée aux nations riches afin qu'elles remettent les dettes des nations plus pauvres. Et ce n'est pas seulement une question de charité, mais de justice, nous dit le pape. Enfin, il rappelle que l'année 2025 verra l'anniversaire des 1700 ans du Concile de Nicée, où l'unité menacée de l'Église a pu se rétablir par le symbole de la foi, où Jésus, Fils de Dieu, a été reconnu consubstantiel au Père, et donc égal au Père, Dieu né de Dieu. À l'occasion de ce jubilé, le pape désire de tout son cœur que le chemin vers l'unité des chrétiens se poursuive, afin que tous soient un. Et pour cela, un signe d'espérance, qui est aussi un véritable appel, serait l'unification des dates de Pâques pour tous les chrétiens. Que tous œuvrent à cela et prient pour cela. Après ces différents signes d'espérance espérés par le pape François, celui-ci termine la bulle d'indiction en rappelant les fondements de notre espérance. Et le fondement ultime qui oriente toute notre existence chrétienne, eh bien, il n'y en a qu'un. C'est cet article du Credo qui affirme « Je crois à la vie éternelle ». C'est là le pilier fondamental qui indique le but vers lequel nous tendons. Le catéchisme de l'Église catholique, en donnant la définition de la vertu théologale de l'espérance, le rappelle d'une manière très claire. L'espérance chrétienne est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme bonheur la vie éternelle. Rien de moins que cela, mes amis, car sans cette espérance-là, alors c'est la dignité même de l'homme qui s'obscurcit et l'énigme de la vie et de la mort, de la faute et de la souffrance qui reste sans solution. Au contraire, en vertu de l'espérance, cette espérance qui se fonde sur la foi en Dieu qui nous a créés par amour, alors nous avons la certitude que l'histoire de l'humanité et celle de chacun ne se dirige pas vers une impasse, mais qu'elle s'oriente vers la rencontre avec le Seigneur de gloire. Par la mort et la résurrection du Christ, dans lesquels nous sommes plongés par le baptême, nous savons que notre vie n'est pas détruite, mais transformée. La mort devient le passage vers une vie nouvelle, un huitième jour, celui de la résurrection. Saint Augustin pouvait ainsi s'exclamer « Seigneur, quand je te serai uni de tout moi-même, plus de douleur alors, plus de travail, ma vie sera toute vivante, étant toute pleine de toi. » L'homme est ainsi destiné à une plénitude de communion avec Dieu, et cela s'appelle le bonheur. Et nous pourrons dire avec saint Paul, « Rien ne pourra alors nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Pourquoi est-ce si important de se dire que la raison ultime de notre espérance, c'est la vie éternelle, la communion avec Dieu et rien d'autre? Parce que toutes les autres espérances, qui sont soit de fausses espérances, soit des espérances partielles, peuvent ne pas trouver leur accomplissement sur cette terre, sans que pour autant nous perdions notre espérance. Et cela est possible seulement si notre espérance est en Dieu seul. Vous comprenez, on peut espérer la paix pour notre monde, la justice, la liberté des peuples, on peut espérer le bonheur pour nos familles. Mais si nous ne mettons notre espérance qu'en cela, et que par malheur advienne non pas la paix mais la guerre, non pas la justice et la liberté mais le triomphe de l'injustice, et la mise sous tutelle des peuples, les emprisonnements, les divisions, la maladie, des pandémies, alors nous allons désespérer. Et cela, c'est l'arme fatale du démon pour nous abattre. Mais si notre espérance est en Dieu seul, alors tous ces événements terribles qui pourraient advenir n'auront pas prise sur notre espérance, parce que nous pourrons continuer à espérer en Dieu, lui qui a le pouvoir de renverser les situations, de tout faire concourir au bien de ceux qu'il aime, même les événements terribles. Pourquoi j'insiste là-dessus? Eh bien, je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais je me souviens que lorsque Benoît XVI avait institué une année du sacerdoce en 2009, année du jubilé de la mort du Saint Curé d'Ars, c'est précisément durant cette année qu'ont commencé à sortir toutes les histoires de pédophilie dans l'Église. Autrement dit, il y a eu une grande purification qui a commencé à s'opérer, purification nécessaire pour que la lumière brille à nouveau avec plus d'éclat dans le sacerdoce. Eh bien, cette année 2025, consacrée à l'espérance, pourrait devenir aussi une année de purification de notre espérance, afin que notre espérance ne repose plus sur des fondements de sable, mais sur le roc du Christ, sur Dieu seul. Il se pourrait que nos châteaux de cartes s'effondrent devant le vent impétueux des événements mondiaux. Vous comprenez, il ne s'agit pas de mettre notre espérance dans des hommes politiques, des structures étatiques ou des conférences internationales pour établir la paix, la délivrance des peuples, ou même pour nous garantir la santé par des remèdes qui peuvent de plus s'avérer douteux. Ce sont là des espérances humaines. Ce n'est pas l'espérance théologale, la grande espérance. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain, nous rappelle le psalmiste. Autrement dit, nos cœurs pourraient aussi passer par le feu d'une purification radicale. Et si devant les événements du monde, nous tombons dans le désespoir, eh bien ce sera le signe qu'une purification est nécessaire et qu'elle est à l'œuvre en nous, et que le Seigneur est en train de nous faire revenir à lui et à lui seul, dans une espérance théologale renouvelée, purifiée et prête pour traverser la mer de ce monde, jusque vers la patrie céleste, sans que nous coulions. Je ferme cette petite parenthèse et je reviens à la pensée du pape François. Il nous rappelle qu'avant d'entrer dans cette éternité bienheureuse, dans la plénitude de l'amour de Dieu, le mal qui est en nous a besoin d'être purifié, pour que lors du jugement de Dieu, à la fin des temps, comme à la fin de notre vie terrestre, nous soyons jugés avec clémence, par l'amour et sur l'amour. Nous avons besoin d'être en vérité devant Dieu. Nous avons besoin de nous reconnaître pauvres et pécheurs, mendiants de sa grâce miséricordieuse. Dieu désire nous accueillir dans son amour, mais en lui n'est que le bien. C'est pourquoi, si nous l'aimons, il nous faut laver la robe de notre âme, être purifiés du mal qui est en nous, avant l'étreinte sur son cœur. Le jubilé nous permet de recevoir l'indulgence plénière de Dieu, c'est-à-dire la plénitude du pardon de Dieu, qui ne connaît pas de limites. Et ceci passe par la belle démarche du sacrement de pénitence, par lequel nous reconnaissons nos fautes et nous espérons la miséricorde de Dieu toujours prête à se déverser sur ses enfants repentis. Qu'est-ce que l'indulgence plénière ajoute à la confession ? En fait, le péché laisse des traces. Il entraîne des conséquences, non seulement externes, mais aussi internes, dans la mesure où, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures qui a besoin de purification, soit ici-bas, soit après la mort, dans l'état qu'on appelle purgatoire. Il reste donc dans notre humanité faible et attirée par le mal des effets résiduels du péché. Et ce sont précisément ces effets résiduels du péché qui sont éliminés par l'indulgence. Pour recevoir cette indulgence pour nous ou nos défunts, il nous faudra passer par la porte sainte, à Rome ou dans nos diocèses, recevoir le pardon de Dieu dans le sacrement de réconciliation, assister à la messe, prier aux intentions du Saint-Père et accomplir des gestes concrets d'amour et de solidarité. Le pape François termine la bulle d'indiction en nous invitant à contempler la Mère de Dieu, elle qui s'est tenue debout au pied de la croix, le cœur transpercé de douleur, mais répétant cependant son oui, sans perdre ni l'espérance ni la confiance dans le Seigneur. Elle collaborait par là à la rédemption, et dans le tourment de cette douleur offerte à Dieu par amour, elle devenait notre Mère. La mère de l'espérance. Marie demeure pour toute l'Église un signe d'espérance assurée et de consolation, comme il est dit dans la Constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II. Elle est l'icône de ce à quoi nous sommes appelés. Elle peut nous apprendre à espérer contre toute espérance sur le chemin de notre vie, à traverser les épreuves dans la sécurité et la paix, parce que nous serons arrimés à l'espérance comme à une ancre, sans perdre de vue la grandeur du but auquel nous sommes appelés, le ciel. Et le pape François nous invite finalement à être des missionnaires de l'espérance, des gens qui évangélisent par l'espérance. Que notre témoignage de foi, dit-il, soit dans le monde un ferment d'espérance authentique, une annonce des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, où nous habiterons dans la justice et la concorde entre les peuples, tendus vers l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Laissons-nous donc dès aujourd'hui attirer par l'espérance et faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire « Espère dans le Seigneur, sois fort et prends courage ». Puisse la force de l'espérance remplir notre présent dans l'attente confiante du retour du Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire maintenant et pour les siècles à venir.